Divertimento, bonjour, bonjour à la technique, puisqu'aujourd'hui c'est Christian bien sûr qui a la manette, mais accompagné, nous avons un petit stagiaire, bienvenue à lui sur Liberté FM et bienvenue à nos auditeurs. Ce matin on va parler d'un instrument, on dit qu'il est démodé, non pas vraiment, parce qu'il revient de très loin dans le temps lui aussi, il s'agit du clavecin. C'est un instrument qu'on a beaucoup connu au moment de la Renaissance, mais nous allons voir cela avec des morceaux d'ailleurs, morceaux choisis par Christian. Bon, alors, on va commencer. Qu'est-ce que c'est que... Je vais vous parler un petit peu, bien sûr, de la facture du clavecin, parce que du XVIe siècle au XVIIIe siècle, il a déjà beaucoup évolué. En devenant l'instrument privilégié des musiciens du dimanche, au détriment du luth, qui avait les faveurs des musiciens auteurs à l'époque de la Renaissance, la facture du clavecin se perfectionne jusqu'au XVIIIe siècle. C'est en Italie, dans la première moitié du XVIe siècle, que ces bases sont élaborées. Instrument à cordes pincées par un petit bec taillé dans un rachis de plumes fixé sur un dispositif appelé sotro, qui monte bien sûr lorsque le doigt se pose sur la touche, alors qu'un ressort décale ensuite la touche de la corde en retombant. Le clavecin, à cette époque, a une facture très légère. Il comporte 4 octaves et un seul clavier doté d'un jeu de 8 pieds, sachant que l'octave grave est souvent démuni du do dièse, du ré dièse et du fa dièse, et aussi du sol. Alors, on va écouter déjà un petit morceau, puisque nous avons ramené pas mal de musique aujourd'hui, pour votre plaisir, pour sa découverte, et c'est Christian qui va vous l'annoncer.
Eh bien, on va commencer par le maître Jean-Sébastien Bach, c'est le concerto pour clavecin en ré mineur, BWV 1052, et c'est l'ensemble Café Zimmermann qui l'interprète. Thank you.
Alors, durant les siècles qui vont s'écouler, jusqu'au XVIIIe siècle, le clavecin connaît plusieurs évolutions. Élargissement de la tessiture dans les graves et l'aigu jusqu'à 5 octaves. Les registres de 16 pieds, le jeu de luth, une pièce en feutre. Une pièce, écoutez bien parce que c'est intéressant, une pièce en feutre vient étouffer la résonance de la corde. Et puis l'apparition d'un rang de sautereaux supplémentaires qui donne un son plus pincé que l'on a nommé nasal. En dehors de ces changements de registration, il n'y a aucune possibilité de changer de dynamique. L'arrivée du pianoforte pousse les facteurs à tenter quelques modifications, par exemple le remplacement des becs en plumes par du cuir. C'est un jeu de peau de buffle en France qui donne ainsi un son aux attaques plus douces. Le placement d'un système qu'on appelle jalousie au-dessus des cordes pour obtenir des effets de nuances progressives. Mais à la fin du XVIIIe siècle, le clavecin est bien détrôné par le pianoforte. Alors, avant de faire parler une claviniste, on va écouter un autre petit morceau et puis on verra avec elle la conversation, ce qu'elle peut nous dire justement sur cet instrument.
Alors, le prochain morceau, eh bien, c'est un contemporain de Jean-Sébastien Bach, puisqu'ils sont tous les deux nés en 1685. On va écouter sa sonate pour clavecin en fa mineur, K239. Thank you.
Alors nous avons choisi une conversation avec une claviériste en lui posant quelques questions, donc je vais faire questions-réponses bien sûr. Alors on lui demande par exemple, chaque concert correspond pour vous à une nouvelle rencontre ou bien à des retrouvailles, puisque à l'inverse de la grande majorité des autres instrumentistes de l'orchestre baroque, vous ne faites pas suivre forcément votre propre instrument. Qu'est-ce qui vous fait apprécier un clavecin plutôt qu'un autre ? Alors elle nous répond, pour chaque concert, il y a bien quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est d'accorder l'instrument moi-même. Ce n'est pas le cas d'un grand nombre de clavinistes. C'est moment d'accord et je trouve un temps privilégié afin de découvrir de nombreuses caractéristiques d'un clavecin. Cela peut être pris comme un exercice technique et sans intérêt, mais en vérité, c'est une façon très belle et surtout très riche de prendre connaissance avec l'instrument. Il y a naturellement des critères objectifs pour apprécier un clavecin plutôt qu'un autre, comme un clavecin bien ou mal réglé par exemple, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la sensualité. Alors, plutôt que d'en parler plus longtemps, on va écouter un autre morceau, puis on refera connaissance avec cette dame qui s'appelle Elisabeth Jaeger.
Alors, le troisième morceau, c'est un contemporain des deux autres. Il est né 2 ans avant, en 1783. C'est Jean-Philippe Rameau. Nous allons écouter La Villageoise, interprétée par Trevor Pinnock.
La prochaine question qu'on pourrait poser à cette dame, ça serait la présence du clavecin dans l'orchestre est vraiment spécifique à la période du baroque. Quand on est claviniste, on regarde seulement vers le passé ou bien justement est-on tourné vers l'avenir ? Et le morceau que Christian nous a fait écouter, c'est justement la progression de cet instrument. C'est vrai que c'est plutôt un répertoire tourné vers le passé, Quand on est claviniste, on fait énormément de recherches sur le clavecin, mais aussi sur la musique en général. En tant que claviniste, on a la chance de travailler avec plein d'instruments différents et du coup, on a une approche assez globale, assez synthétique de l'écriture. On a la capacité aussi de lire des partitions d'orchestre et amener à faire des réductions d'orchestre pour des productions d'opéra. Le claviniste est un vrai moteur musical pour les autres instruments. Le clavecin est un élément liant toutes les parties de l'orchestre entre les basses et les dessus grâce justement à son spectre. Le claviniste joue aussi bien des basses de la main gauche que la partie les plus aiguës de la main droite. C'est un liant au niveau de l'harmonie, mais aussi au niveau rythmique, au niveau aussi de la pulsation. C'est une sorte de vecteur du chef d'orchestre. Si le claviniste est coté, tout l'orchestre va être à côté. Voilà. Est-ce que vous aviez déjà remarqué ça, Christian ? Que justement, vous qui connaissez bien l'instrument, c'est un peu un moteur dans
le cercle. Ah oui, il est fondamental. Il fait partie de ce qu'on appelle d'ailleurs la basse continue. Oui. Donc c'est ce groupe d'instruments qui assure justement les fondements de la musique.
Ah oui, d'accord. Alors si lui est à côté, l'orchestre risque d'être à côté.
Tout à fait.
Ah oui, vous l'avez pu le comprendre. Ah oui, voilà. L'impact rythmique du clavecin est tellement important que cela peut être une grande aide, mais aussi potentiellement un terrible handicap pour le chef d'orchestre. Mmh. Oui, vous qui avez pas mal parlé en d'autres temps de la musique baroque, vous avez dû le rencontrer.
Oui.
Alors, on va écouter encore un avant-dernier morceau, puisqu'il ne me reste plus grand-chose. Et puis après, on va clôturer. Hein.
Très bien. Alors là, on va écouter de la musique contemporaine. C'est Philip Glass qui est né, lui, en 1937, qui fait partie de ces compositeurs qu'on qualifie de minimalistes. Alors on va écouter une pièce qu'il a composée pour le clavecin. C'est un concerto pour orchestre et clavecin. On écoute tout de suite un extrait.
Justement, Christian, on voit bien la différence.
Ah oui. Et surtout, on reconnaît bien le style de Philip Glass et son minimalisme.
Oui, d'accord. Alors, on va lui poser encore une petite question à cette dame. Êtes-vous plus particulièrement à l'écoute d'un pupitre, pardon, plutôt qu'un autre dans l'orchestre ? Eh bien oui, elle dit, je suis complètement connectée au pupitre de base, puisque je joue la même partie qu'eux. Et après, comme j'improvise la main droite, forcément, j'ai fait attention au violon, aux flûtes, au hautbois, pour jouer avec eux. Pour proposer un contre-champ, pour éviter de doubler rigoureusement. Après, très souvent, le clavecin est placé au milieu de l'orchestre pour être ainsi au cœur du son. Au final, pour être connecté à tout le monde, sans oublier bien sûr la percussion, parce qu'en dehors de la percussion et les cordes pincées, le clavecin est un élément plus rythmique de tous. Voilà, c'est une petite connaissance que je voulais vous apporter par rapport à cet instrument, parce qu'on aurait pu faire une émission d'une heure, n'est-ce pas, Christian ?
Au moins.
Alors moi, je vais un petit conseil. Si les gens sont intéressés par cet instrument, eh bien, il existe une bibliographie. C'est le guide des instruments au Moyen-Âge, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, édité en 2009. Et puis, les instruments de l'orchestre, la musique instrumentale à travers les siècles, c'est écrit par M. David Lampel en 2017. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, on finit en musique. Vous avez quelques petites choses à dire à nos auditeurs par rapport à cet instrument ?
Eh bien, je crois que c'est un instrument magique. On l'associe souvent à l'Ancien Régime, voilà, à cette musique baroque, mais c'est absolument... c'est un instrument qui est vraiment très riche et qui a beaucoup de couleurs et qui est encore utilisé, qui inspire encore les ensembles de musique actuelle, puisque le morceau qu'on va vous faire entendre, il date de 1981, mais ce sont les Stranglers qui ont composé ce morceau. Ça s'appelle Golden Brown et je suis sûr que ça va vous parler parce que c'était le grand hit des Stranglers.
Bien. Ben on va se dire au revoir avant, je voulais vous dire, la semaine prochaine, on va ramener des voix d'hommes, mais des voix d'hommes qui datent depuis, pour les gens qui ont un petit âge certain, ils vont dire, ah oui, ça me rappelle mon jeune temps.
Très bien.
Voilà. Merci Christian, merci à notre petit stagiaire, à Clément, et puis on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day.